Deutsche Welle. Droits et libertés.
Dans le jargon journalistique, une accroche, c'est un événement d'actualité qui donne l'idée de parler de certains thèmes. Cette semaine, notre accroche, ce sont les Jeux paralympiques qui s'ouvrent le 7 septembre à Rio, même si je sais qu'on n'a pas besoin d'occasion pour revenir sur le droit des handicapés qui sont souvent bafoués de par le monde. Quoi qu'il en soit, cette semaine, nous parlons donc de personnes qui souffrent d'un handicap, notamment suite à une polio, avec un reportage en République démocratique du Congo. Et ensuite, nous reviendrons sur l'égalité homme-femme, qui est une réalité depuis 60 ans en Tunisie, en tout cas sur le papier. Au micro, c'est Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. Durant la guerre civile des années 1980 et 90 en RDC, les structures de l'État congolais se sont beaucoup affaiblies, ce qui a eu aussi des répercussions sur le système de santé. Toute une génération d'enfants congolais n'ont pas pu bénéficier des campagnes de vaccination contre la poliomyélite et se retrouvent maintenant adultes et handicapés à vie. Robert Mboyo fait partie de ces victimes de la négligence étatique. Sa jambe droite est paralysée, alors il a décidé de créer une fondation pour permettre aux plus démunis, dans son cas, de bénéficier de fauteuils roulants fabriqués à moindre coût. Robert Mboyo a besoin de béquilles pour marcher. Il traverse la cour de l'hôpital de Kinshasa en boitant. Son atelier est situé de l'autre côté du parking. À 36 ans, il a perdu l'usage de sa jambe droite après avoir contracté le virus de la polio. C'était dans sa toute petite enfance.
Moi, je l'ai handicapé depuis ma naissance. Maman a dit que depuis l'âge de 2 ans, à partir de Tonga, de Polume, déjà commencé les handicapés. Et donc depuis l'âge de 2 ans jusqu'à maintenant. Malade de Buka Buka, on dit à Lingala Buka Buka. Donc malade des deux pieds. Je n'ai pas ici à la capitale, à la province. À la province, c'est trop grave. Mais ici en capitale, maintenant, ils sont déjà à prendre les solutions. Quand ils commencent les polluants, tout d'abord, même à l'école, ils donnent même les médicaments à l'école. Mais à la moment que à la province, c'est un grand problème.
La plupart des handicapés du Congo n'ont pas les moyens de se payer de quoi se mouvoir plus confortablement. Une simple béquille coûte l'équivalent de 15 euros, un fauteuil jusqu'à 300. Autant dire des sommes astronomiques pour des personnes qui souvent ne trouvent pas de travail et ne sont pas allées longtemps à l'école du fait justement de leur handicap.
À la Fondation Mboyo, on travaille la matière de déplacement des personnes vivant avec handicap. Et on travaille ici, vélo tricycle. On aide les personnes avec handicap qui ne payent pas même les béquilles, qui ne payent même les vélos qui sont cassés. On fait la réparation. Mais à la Fondation Mboyo, nous avons commencé l'idée le janvier 1999, depuis que nous avons commencé. 38 personnes qui travaillent ici à Fondation Mboyo, mais comme il n'y a pas de financement, nous avons resté maintenant seulement 19 personnes. Entre les 19 personnes là, nous sommes 16 personnes vivant avec handicap et 3 personnes les valides. Et j'ai créé cette idée parce que les personnes vivant avec handicap, ils souffrent. Ils souffrent même les béquilles, ils manquent même les béquilles, ils manquent le vélo, même les pinets comme ça. Donc ici, à la gouvernement du Congo, même le ministère des Affaires sociales, il n'aide pas même les personnes avec handicap. Donc moi, j'ai créé l'idée pour l'aider toujours la personne avec handicap.
Il n'y a pas de statistiques à jour sur le nombre de personnes handicapées en RDC. Les ONG spécialisées comme Handicap International estiment qu'elles représenteraient environ 15% de la population. La RD Congo a ratifié la Convention internationale des Nations Unies sur les droits des handicapés en 2015. Un pas courageux de l'avis d'Hubert Chauvet. Il dirige le bureau de l'ONG Christian Blind Mission à Kinshasa et il espère que la RDC saura relever le défi et que ses engagements ne resteront pas lettres mortes.
C'est que dans les pays des Nord, on a des systèmes pour améliorer les qualités de vie des handicapés au quotidien par différents mécanismes d'accessibilité dans les bâtiments, pour traverser les routes, pour monter dans un bus, ce qu'on n'a pas du tout au Congo. On a quelques écoles qui ont développé des systèmes d'accessibilité pour les handicapés moteurs. Mais globalement, dans une ville comme Kinshasa, et encore plus au village, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à l'intérieur du pays, vraiment. Donc, vous avez vu qu'en termes d'accessibilité aux services courants pour l'amélioration de vie des personnes vivant avec handicap, il n'y a rien. Et ça, c'est la problématique qui s'ajoute sur ces 15%, qui est que dans des pays comme le Congo, dans le secteur de la santé, et on a très 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 peu de choses qui ont été faites. On a beaucoup 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 de choses qui restent à faire en termes d'amélioration des conditions de vie.
Au moins depuis 2015, tout nouveau-né en RDC est vacciné contre la paralysie infantile. Et depuis 2011, aucun nouveau cas de poliomyélite n'a été signalé. À l'heure où certains tentent d'organiser ici et là en Afrique des concours de fesses, oui, vous avez bien entendu, pour que ces dames exhibent leurs croupes devant des mâles concupiscents, parlons un petit peu droit de la femme. En Tunisie, le Code du statut personnel, ou CSP, a été adopté en août 1956. Ce texte accordait aux Tunisiennes beaucoup plus de droits que les femmes n'en ont dans la plupart des autres États de la région à l'époque. Mais 60 ans plus tard, le CSP a pris un coup de vieux, comme l'explique Monia Benjemia, présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates.
Le 13 août 1956 a été promulgué le Code du statut personnel qui a représenté une véritable révolution, non seulement en Tunisie mais également dans le reste du monde arabe. Il faut continuer la réforme du Code du statut personnel. Il y a encore des discriminations dans le Code du statut personnel et c'est d'ailleurs le texte de loi qui est le plus discriminatoire aujourd'hui à l'égard des femmes.
En 1956, le Code du statut personnel a été l'un des premiers chantiers lancés par le Premier ministre et futur président Habib Bourguiba, quelques mois seulement après l'accession de la Tunisie à son indépendance de la France et avant même de doter le pays d'une constitution, le CSP accorde donc des droits importants aux femmes. La polygamie est abolie et les Tunisiennes ont désormais le droit de réclamer le divorce. Le texte prévoit aussi qu'en cas de divorce d'un couple, la justice doit décider pour le bien de l'enfant et non plus accorder systématiquement sa garde au père. Avec ces dispositions, la Tunisie fait alors figure pendant des décennies de pays précurseurs en matière des droits de la femme dans la région. Les Tunisiennes restent fières aujourd'hui encore de ces acquis, mais elles se plaignent de la distorsion constatée parfois entre les textes et la réalité. Farida Labidi, avocate et députée du parti islamo-conservateur Ennahda.
La situation des femmes, surtout sur le marché de l'emploi et dans l'agriculture, est catastrophique.
Et à tâche égale, il n'est pas rare, comme le déplore Farida, que les Tunisiennes soient moins payées que leurs homologues masculins. Et il va encore de soi, pour la majorité des hommes, que même si elles travaillent à temps plein, comme employées ou même comme responsables politiques, la femme tunisienne se doit, en rentrant chez elle, de s'occuper de ses enfants et de son foyer, souvent toute seule. Et sur ce point, les mentalités n'ont pas beaucoup changé en 60 ans. C'est la constitution de 2014 qui a mis en évidence la nécessité de remanier le CSP. La nouvelle loi fondamentale stipule noir sur blanc que les hommes et les femmes sont égaux devant la loi en Tunisie et que l'État doit garantir aux deux sexes l'égalité des chances. Il y a un point litigieux que la Constitution a ainsi permis de soulever, le problème du droit à l'héritage. Les textes issus de 1956 et qui règlent la succession sont en effet inspirés du droit islamique. Ils prévoient que les héritiers masculins doivent hériter de deux fois plus que les héritières, à parenté égale, si aucune disposition particulière ne stipule le contraire. Mehdi Ben Harbia, député, a lancé une initiative pour que filles et garçons reçoivent les mêmes parts d'un héritage au nom de la modernité de la société tunisienne.
Bien sûr que nous sommes un pays musulman, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on coupe les mains aux gens.
Des propos qui n'ont pas eu l'heure de plaire au moufti de Tunis, la plus haute autorité religieuse du pays, qui a réagi violemment à ces propos, donc tenus à la radio. Farida Labidi, la députée de Narta, ne pense pas non plus qu'il s'agisse là d'une priorité. Un point de vue que ne partage pas Monia Benjemia de l'AFTD. Pour elle, au contraire, la réforme du droit de succession, c'est tout un symbole.
S'il y a l'égalité dans l'héritage, il va y avoir l'égalité partout. C'est-à-dire que si cette brèche est ouverte, la citadelle patriarcale va s'effondrer d'elle-même et on aura l'égalité partout. Donc sur le plan symbolique, c'est très fort.
Un autre dossier sur lequel les Tunisiens sont cette fois-ci quasi unanimes. Un projet de loi propose de mieux protéger les femmes contre les violences, notamment domestiques. Il prévoit de pénaliser le viol conjugal et de renforcer les peines prévues pour harcèlement ou agression sexuelle au travail ou dans l'espace public. Dans un sondage récent, près de la moitié des Tunisiennes interrogées déclaraient avoir été au moins une fois dans leur vie victimes de violences domestiques, c'est-à-dire au sein de leur couple notamment ou de leur famille. Et 9 personnes interrogées sur 10 ont déjà été agressées verbalement ou physiquement dans les transports en commun. Le Premier ministre Youssef Chahed a dévoilé il y a quelques jours de cela la composition du nouveau gouvernement tunisien. Sur 26 ministres et 14 secrétaires d'État, 8 portefeuilles ont été accordés à des femmes. Et certains de ces ministères sont importants, comme les finances, ce qui a dû réjouir Farida Labidi de Narta. C'est la fin de ce magazine. Merci à Zahra Mersch et Simone Schlindfein pour les sons. Si vous voulez le réécouter, le podcaster, vous abonner, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français et allez à la rubrique Nos podcasts, c'est tout en bas de la page d'accueil. Salut et à la semaine prochaine.